Excellent mercredi matin. Merci de passer les deux prochaines heures avec nous. On va parler dans la deuxième heure de l'émission de l'essor du sport électronique au Québec. Vous savez, le e-sport, c'est championnat de jeux vidéo.
C'est interdit de fumer du pot hein, dans ces compétitions-là, c'est pas une joke.
Hugo Saint-Onge est parti déjà pour faire du bloc pot. On va en parler dans la deuxième heure. Oui. Tu pourras rester, Hugo, pour nous parler justement de ça. Justement, effectivement, c'est interdit de fumer du pot, c'est interdit de consommer également de la drogue. Même chose pour les sportifs, hein, parce que ce sont des sportifs, les joueurs de jeux vidéo. Il y en a qui travaillent extrêmement fort. Puis on va recevoir d'ailleurs un joueur semi-professionnel qui va venir nous parler de sa vie. Et dans cette première heure, ben là, je pense que déjà, on a déjà mis la table hein, pour le sujet. Il reste à peu près moins de deux jours, on peut dire ça comme ça, avant la légalisation du pot le 17 octobre prochain au Canada, qui est quand même le premier pays occidental à légaliser le cannabis sur tout son territoire avec des espaces de vente publics ici au Québec. Il reste encore quand même beaucoup, beaucoup de questions. On sait que ça sera les prochaines semaines vont être assez expérimentales, on peut dire ça comme ça. Il y en a qui se demandent, bon, ça va profiter vraiment à qui? Est-ce que c'est si bon pour l'économie? Est-ce que ça va tant que ça déjouer les crimes, les plans du crime organisé? Est-ce qu'on sous-estime même les dommages, la dépendance également aux potes. On va faire le point là-dessus avec, justement, je l'ai mentionné, Hugo Saint-Onge, salut.
Bonjour.
Merci d'être là, porte-parole du Bloc Pot, candidat dans Laurier-Dorion à Montréal pour les prochaines élections. Et Dr. John Sader, médecin de famille, spécialiste en traitement des dépendances. Merci d'être là, docteur. Je le disais tantôt, on a donné plusieurs bonnes et moins bonnes raisons pour légaliser le cannabis au Canada, atténuer les conséquences négatives, évidemment, d'encadrer plus rigoureusement le milieu, les conséquences également, un peu comme on l'a fait pour le tabac, pour l'alcool aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr. Sader?
Écoutez, on a pris un peu la même tactique avec le jeu, l'offre du jeu dans les années mi-90. Il y avait des problèmes, le crime organisé, il y avait des vidéos, c'était pas des vidéos poker à ce moment-là parce qu'elles étaient pas tous reliées ensemble, mais il y avait des machines électroniques pour jouer.
Dans le fond des restaurants.
Dans le fond, caché, en arrière, tu sais. C'était pas, l'offre était là. L'argent allait au crime organisé, mais la petite secrétaire de SNC-Lavalin, elle allait pas là, dans le fond du corridor, dans le sous-sol.
Moins.
Maintenant, c'est pas très publicisé, mais est-ce qu'on a moins de machines? On le sait pas. Est-ce qu'il y a plus de problèmes de jeu? Oui. Est-ce que le casino est devenu le centre de jeu international comme on voulait que ça devienne? C'est pas devenu ça. Tu vas au casino, mm-hmm. C'est 90% des Québécois qui perdent leur argent là. Mais le jeu, c'était autre chose. Parce qu'on peut jouer en ligne, on peut jouer sur l'ordinateur. Le Québécois joueur pathologique peut perdre sa fortune. Et ces argents-là vont aller en Argentine, vont sortir du pays. Puis nous autres, on est poignés pour le traiter quand même. Donc, pour le jeu, c'est un petit peu différent. Il y avait une pression sociale mondiale où est-ce que tout le monde a pris ce tournant-là. Mmh. Puis on a suivi le courant en essayant de le faire le mieux possible. Mais ça n'a pas donné grand-chose. On voit des problèmes de jeu. Puis de plus en plus, il y a eu des problèmes de jeu. De plus en plus, il y a eu des appels au centre jeu aide et références à Montréal. Puis ça a fini qu'on a dû développer des centres de thérapie pour le jeu. À Jean-Lapointe, à Dollard-Cormier, ça n'existait pas avant. Donc, veux pas, on récupère énormément d'argent pour le jeu.
Oui.
1 milliard $ par année dans les vidéos poker. Ça, c'est la partie vidéo poker. 1 milliard. Mais c'est pas on a fait de l'argent. On a pris cet argent-là des poches des Québécois. On a appauvri notre population. Et ce qui me dérange personnellement là-dedans, je sais qu'on divague, mais tu vas voir, il y a un lien. C'est que chez les joueurs pathologiques, il y a au moins 50% qui ont des troubles psychiatriques. Étant donné que 40% des recettes du jeu viennent du monde avec des problèmes psychiatriques autres que le jeu pathologique, c'est-à-dire des syndromes de stress post-traumatique, l'alcoolisme, toxicomanie, viol, tatati, tatata, troubles anxieux, troubles dépressifs, ça veut dire que 20% des profits de l'État viennent du monde qui sont malades. Moi, ça me gêne socialement. Et on sait qu'il y a un fort risque génétique de trop aimer le jeu. Parce que la génétique de la dépendance, c'est pas c'est pas t'es malade d'emblée, mais t'as une tendance première à trop aimer ça. Donc, si moi, j'aime trop la vitesse en voiture, je suis plus à risque de faire des accidents. Si j'aime trop le gâteau au chocolat, je suis plus à risque de devenir obèse. Si j'aime plus le jeu ou les substances, j'ai plus de problèmes. Et on le sait, ça. Fait que y aurait pas un meilleur rôle à jouer pour protéger notre population.
Mais ce que le gouvernement dit, justement, c'est qu'on va servir de cet argent-là pour faire de la prévention pour le pot, le cannabis.
Et le fédéral a promis qu'ils veulent pas, le but, c'est pas de faire de l'argent, puis les argents ramassés vont être réinjectés. C'est pas ça qui s'est fait avec le jeu. Les joueurs pathologiques avec des troubles dépressifs, anxieux, ils payent mes impôts pour moi. Ouais. OK? Et pour toi et pour toi. Ça, c'est gênant comme société. Je trouve qu'on on victimise notre propre population.
Hugo Saint-Onge, est-ce que ce ne serait pas une façon aussi de peut-être banaliser le pot, de l'égaliser? Parce que je sais qu'il y en a qui attendent le 17 octobre, pas à peu près, pour se rouler un gros bat.
Bien là, moi, ça me fait énormément rire, hein, parce que la façon que le gouvernement en parle, c'est comme si c'était nouveau. Un nouveau tabagisme, bon, c'est pas du tabagisme déjà en partant, puis c'est pas nouveau non plus. Fait que ça me fait un peu rire, hein. Est-ce qu'on est prêt? Bien, c'est clair qu'on est prêt, on est même prêt à aller plus loin parce que présentement, le gouvernement n'a pas changé sa politique. Hein. On pense que c'est un gros changement, la légalisation, mais le cannabis est encore dans le code criminel. On a même créé des nouvelles infractions. Fait qu'on va continuer à pénaliser les gens. Donc, finalement, l'amateur de cannabis est encore celui qui est considéré comme un paria à pénaliser ou un toxicomane à guérir. Pourtant, la grande majorité, l'extrême grande majorité des amateurs de cannabis, c'est des gens qui n'auront jamais de problème de santé. Donc, moi, je pense qu'on devrait se rappeler qu'un fumeur de pot, c'est quelqu'un qui est bien banal, finalement. C'est quelqu'un d'ordinaire, là. C'est votre voisin, c'est votre cousin, c'est votre médecin. Bon, ça peut être n'importe qui, finalement. Puis ça, on l'oublie. Puis nous, c'est ça qu'on tente de rappeler. C'est qu'on doit faire ce changement-là pour les gens qui aiment ça. Là, présentement, on continue à ostraciser ces gens-là par un discours médiatique. Pourquoi? Parce que c'est encore considéré comme criminel.
Mais le fait que ça soit légalisé, quand même, il va y avoir des points de vente au Québec.
Il faut faire attention.
Chaque province va avoir quand même ses règlements.
C'est pas tout le cannabis qui est légal. Hein? C'est souvent ça qui est la tournure qui est mal précisée. Là. C'est le cannabis légal qui va être légal. Le reste du cannabis va rester du cannabis illégal et les personnes seront traitées comme auparavant. Ce que je veux expliquer, là, c'est que même que dans la prochaine année, le gouvernement prévoit vendre 60 tonnes de cannabis. Il s'en fume 200 tonnes au Québec. L'autre 140 tonnes, là, il va arriver de où? Pourquoi que eux autres n'auraient pas le droit de? Puis ces gens-là, s'ils se font prendre avec du cannabis illégal, ils vont se faire criminaliser comme auparavant.
Mais
un instant, là, la SQDC, il prévoit avoir un registre des gens qui viennent acheter. Pas sûr que moi, les amateurs de cannabis ont envie d'être dans un registre. C'est comme quand les gens vont à SAQ, il faudrait que vous soyez dans un registre. Puis là, si vous
on a la carte
fois,
de points, en tout cas, la carte de points de pot, peut-être,
donc,
qu'on va avoir
ben
après.
Ben non, parce que c'est du marketing. Mais là, ça va être une question de contrôle. Parce que si vous y allez trois fois ou trop souvent, ils vont vous donner un pamphlet pour aller dans une maison de thérapie. Pourquoi ils font pas ça à la SAQ? Pourquoi ils font pas ça aux dépanneurs? Pourquoi ils font pas ça à l'Auto-Québec? T'sais, je veux dire, je comprends qu'on veut intervenir pour aider les gens qui ont la difficulté. Je veux dire, ça fait partie de notre programme à nous, au Blockpot aussi. Mais notre vision, c'est que ces personnes-là, ils ont besoin d'aide. Mais tous ceux qui n'ont pas besoin d'aide, l'extrême majorité, on doit les intégrer à la société. C'est ça notre message à nous.
Je vous dirais que, je ferais quelques petits bémols, là. Est-ce que ce serait mauvais pour la SAQ d'offrir des pamphlets pour aller en désintox chez les gens qui viennent trop souvent puis qui en achètent trop puis sont évidemment sous quand ils achètent? Pas une mauvaise affaire.
On peut pas vendre, hein? C'est à quelqu'un qui est en état d'ébriété à la SAQ, c'est clair. Okay. Hein? Il y a des gens qui sont capables de masquer qui sont pas en état d'ébriété.
Tout à fait. Tout à fait. Mais les études, c'est intéressant. Dans les années 95, là, 2000, les études sur la dépendance au cannabis. Premièrement, à ce moment-là, c'était controversé. Mais les études qui suggéraient qu'il y avait des gens qui pouvaient devenir dépendants, c'était à peu près 10 % des consommateurs.
C'est donc, encore ça, non?
Non, c'est plus ça.
Ben moi, j'ai lu que
c'est
ça
plus ça.
Donc,
Non, dernièrement, les dernières études avec le cannabis qui est devenu de plus en plus fort. Il faut comprendre que dans les années 70, c'était 1 % 2 %
non, 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 non,
THC.
Non, ça, c'est pas vrai, ça.
Ben, c'est tout à fait vrai.
Non. Vous êtes un consommateur de cannabis, vous pouvez me le dire?
Ben,
mais ils traitent les gens quand même.
Non, c'est dans la littérature médicale. médicale. C'est dans la littérature médicale.
On va la critiquer parce que c'est pas mon expérience.
Mais le cannabis aujourd'hui, c'est plus pas en tout ce que c'était.
Les gens fumaient du hashish à l'époque et le hashish de 30 à 50 de THC. Alors, s'il vous plaît, avec les taux de THC, la substance ne devient pas plus toxique. Elle n'est pas toxique. Le THC, c'est pas une substance
toxique. Mais ce n'est pas une question seulement de pourcentage. Les gens prenaient un peu de hashish, mais mélangeaient ça dans leur cigarette et finissaient par avoir une dose X. C'est avec les nouvelles cannabis, c'est 10 %, 15 %. Il y en a qui prétendent qu'ils font du 40 % en ajoutant de l'huile de hashish au cannabis en faisant un spray. Bon,
c'est la façon qu'on teste aussi. Hein?
C'est oui, mais les nouvelles études suggèrent jusqu'à 30 % de dépendance. Ah là, c'est plus la très grande majorité qui consomme pour le fun. Là, il y a 30 % de gens qui consomment beaucoup plus longtemps, parce qu'avant les années 90, quand moi j'étais au secondaire, la moyenne des gens consommait pendant à peu près 2 ans, puis se tannaient. C'est ça qui arrivait. C'était comme j'ai joué de la guitare pendant 2 ans, puis j'ai arrêté.
C'était comme un passage.
C'est comme un rituel de passage. Puis c'était. Mais maintenant, la donne change parce que on légalise une plante. Les plantes, on sait qu'elles sont manipulables. On est capable de faire des citrouilles de 800 livres en prenant les graines de citrouille, toujours la citrouille la plus grosse. C'est ce qui s'est fait avec le cannabis. Le cannabis s'est développé comme ça, la même plante, mais tu choisis seulement pour la reproduction. Pas les meilleurs, ceux qui ont plus de THC.
Donc, les meilleurs pour la personne qui veut avoir un meilleur THC. Mais oui, mais c'est ça.
Donc,
aime ça, genre.
C'est ça. Et il reste quand même qu'il y a, mettons, dans un nouveau monde de nouveaux cannabis plus forts, il va quand même avoir 70 % du monde qui vont consommer une fois de temps en temps, puis c'est pas un gros problème. Comme la plupart du monde aussi, ils vont prendre un verre de vin.
Ça dérangera pas
Ça dérange pas. Puis quand ils ont des problèmes, tu sais, ça peut banaliser. Est-ce qu'il y a un grand pourcentage de population qui s'empêche de consommer du cannabis parce que c'est illégal? Ben, je pense, avec les années, un peu de moins en moins. Par contre, ce 30 %-là, ça leur ramène des conséquences. Parce que...
Je voudrais mettre en perspective ce 30 %-là, parce que je vous l'accorde, hein, il y a 30 % des amateurs qui consomment quotidiennement. Mais ce 30 %-là représente à peu près 9 % de la population nationale. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les pourcentages. Donc, moi, je retourne à un pourcentage. Dans la société, la prévalence de la dépendance au cannabis n'a pas bronché depuis des années. C'est à peu près 9 à 10 %, ce qui représente finalement 30 % des utilisateurs puis des amateurs. Mm-hmm. Puis ça a toujours été ça. Puis il y a du monde qui consomme du café à tous les jours, il y a du monde qui consomme...
Mais ça n'a pas les mêmes effets, Hugo, tu es quand même d'accord avec nous.
À chaque année, il y a des gens qui ont des problèmes de café, qui vont avoir des problèmes de cœur, des problèmes plus graves. Qu'est-ce que le cannabis ne va pas générer dans une consommation à long terme?
On va continuer à en parler. Je pense que le débat est bien lancé. Et tant mieux, on vous invite à y participer. 1-866-790-9850. 514-790-9850. À 10h22, est-ce qu'on banalise et sous-estime même peut-être les dommages reliés à la légalisation du pot? Et là, je rappelle, hein, c'est dans 2 mois, ça s'en vient. On va encore beaucoup, beaucoup en parler. Et avec raison, et c'est correct qu'on se pose les questions également. Moi, je suis belle-maman d'une enfant de 17 ans, là, puis elle a bien hâte au 17 octobre. Fait qu'il va y avoir une gestion aussi de ça pour les jeunes, les ados. On en parle beaucoup à la maison, on tente de faire de la prévention, mais quand c'est à l'âge, on parlait de passage peut-être obligé pendant 2 ans, on en fume au cégep, on joue de la guitare, puis on trippe. Mais
je crois que c'est normal que les jeunes prennent des risques. Je pense être jeune, c'est quasiment un synonyme de prendre des risques, là, à la limite. Là. Je veux dire, ça fait partie de la façon de comprendre ses limites, de comprendre qui qu'on est par rapport au reste de la société. C'est vraiment un débat là, en perpétuité qui souvent, à un moment donné, hop, ça laisse tomber un peu ce débat-là parce que là, on devient un adulte, on a fait nos expériences. Maintenant, il faut faire attention, il faut assurément offrir aux jeunes une culture de consommation responsable. Présentement, ce qu'on leur offre, c'est encore de la peur. C'est encore d'un discours un peu genre « tu vas tomber malade, ton cerveau va fondre, ça va être fou ».
Mais il y a quand même des répercussions.
C'est quand même exagéré.
Il y a quand même des répercussions,
sûr.
Hugo. Ça, là-dessus, là, on peut s'obstiner.
Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque. Moi, je dis que les risques sont surestimés.
On va en parler avec Dr. Antoine Canamougir qui a publié le livre « Les 21 vérités cachées sur la marijuana ». Bonjour, docteur.
Oui, bonjour.
Vous avez écouté la discussion depuis le début. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'on enjolive un petit peu trop les effets du pot, selon vous?
je trouve la discussion très, très, très intéressante. Encore une fois, je tiens à préciser que dans mes commentaires, c'est pas dans un but de diaboliser le cannabis puis de d'être très dramatique, mais c'est juste d'amener une discussion basée sur les faits, parce que des fois les gens se perdent dans les discussions idéologiques puis on oublie de considérer vraiment les faits au niveau de la santé, les effets du cannabis. Puis je trouve que en général on a tendance à banaliser cette substance-là qui peut être quand même offensive, surtout chez nos jeunes adolescents et jeunes adultes.
Oui, parce qu'on parlait des effets du cerveau aussi, ça vous l'avez quand même documenté dans votre livre là.
Oui, effectivement, c'est par exemple une des mythes que je vois très, très souvent, c'est que le cannabis ne cause pas de dépendance. Là, j'entends ça partout, je lis ça sur l'Internet. Il y a des jeunes qui m'arrivent avec des sites Internet, des articles apparemment bien écrits, documentés, que le cannabis n'a aucun effet addictif. Puis c'est ce qui n'est pas vrai, là. C'est d'aller... Dans les faits, on sait qu'il y a environ 10%, le chiffre peut augmenter, mais il y a environ 10% de consommateurs qui vont développer une certaine dépendance. Donc ça, c'est un effet important. Puis chez les adolescents, on sait que ce risque va presque doubler, là. Ça va être un adolescent sur 6 qui va glisser en dépendance. Donc, quand on banalise l'effet d'essayer le cannabis chez un adolescent, on est en train de banaliser le risque de tomber en dépendance chez un adolescent sur 6. Et ça, je trouve très, très, très néfaste là, pour nos jeunes adolescents. Et il y a bien d'autres effets. Par exemple, on sait que le cannabis est associé avec l'augmentation du risque de psychose. Surtout chez nos jeunes en bas de 25 ans, ce risque est bien documenté chez tout le monde, mais chez les jeunes en bas de 25 ans, le risque est encore plus important. Le risque de dépression, par exemple, c'est surtout chez les adolescents qu'on a documenté ça, qu'il y a des études qui démontrent que les adolescents qui consomment le cannabis sont 2 à 4 fois plus à risque de vivre des symptômes dépressifs pendant l'adolescence ou plus tard dans leur vie.
Mais qu'est-ce que le cannabis va faire dans le cerveau du jeune pour tomber en psychose, en dépression, décrochage scolaire et tout?
En fait, le cannabis, surtout quand c'est des quantités importantes, ça va agir au niveau de certaines structures du cerveau, par exemple l'amygdale. L'amygdale qui est une structure du cerveau qui est impliquée dans la gestion des émotions, la gestion de l'impulsivité, la gestion de l'agressivité, de l'anxiété. Puis, cette partie du cerveau va être moins fonctionnelle. Donc, ce qui fait que le jeune peut se retrouver encore plus impulsif, plus agressif, plus anxieux. Il y en a même qui vont avoir des attaques de panique et des symptômes de dépression. Et des grandes quantités de THC aussi vont diminuer l'activité de sérotonine, l'activité sérotoninergique. Donc, c'est ce qui est relié à l'augmentation de risque de dépression. À part ça, des effets directs sur le cerveau, il y a aussi des effets au niveau de la vie de tous les jours. Si un jeune commence à développer, par exemple, ce qu'on appelle un syndrome motivationnel, la perte d'intérêt, la perte de motivation, l'anhédonie, la perte d'entrée résultant en échec scolaire, en échec au niveau social, à difficulté au niveau de la famille.
Mais on parle de combien de consommation? Est-ce qu'on parle d'un joint dans un party ou on parle de consommation à tous les jours? Là,
on parle plus de consommation importante, régulière.
Okay. Ce qui est plutôt rare chez les jeunes, qui, en général, les gros consommateurs, c'est des gens qui ont 30 ans et plus. Le problème dans tout ce que le docteur nous avance présentement, à mon avis, c'est qu'on regarde vraiment à travers un microscope. Donc, évidemment, à travers le microscope, on regarde ce qu'on a regardé. Si on regarde plus large, on se rend compte que ces effets-là, sont pas nécessairement si claires. Par exemple, pour la psychose, là, je vais me concentrer sur la psychose, parce qu'il y avait plusieurs points que j'aurais pu relever, mais la psychose, si on regarde les statistiques au Québec, la consommation du cannabis est passée dans les 50 dernières années de 1 % de la population, moins de 1 % à peu près 20 % de la population qui consomme le cannabis dans une année. Les taux de prévalence de psychose et de schizophrénie au Québec sont stables depuis 50 ans. Ils ont augmenté un peu, là, mais pas d'aucune variation, surtout quand on regarde la quantité de monde qui consomme le cannabis aujourd'hui. Donc, s'il y avait vraiment un effet causal, on aurait vu un effet sur le taux de prévalence de psychose et de schizophrénie au Québec. Et je vais terminer sur ça. C'est que chez les jeunes, il y a 50 % des jeunes qui essayent à chaque année du cannabis. C'est normal, je l'ai dit tout à l'heure. Les jeunes, ça prend des risques.
Ils vont s'essayer de toute façon. Ça,
c'est et il n'y a pas plus de cas de psychose et de schizophrénie chez les jeunes en 2018 par rapport en 1967.
Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Dr Kanamugir?
En fait, c'est sûr, quand on veut... je me lance pas nécessairement dans un débat par rapport aux hypothèses possibles ou aux associations par rapport aux effets. Moi, je me base sur les études qui ont été faites.
Et ouais, sur les données du gouvernement du Québec.
C'est ça. Les études qui démontrent clairement qu'il y a un lien entre l'augmentation de consommation, que ce soit la concentration de THC et la fréquence et les quantités de cannabis et l'augmentation du risque de psychose. On sait que, par exemple, les gens à risque de schizophrénie, ça peut déclencher la maladie à peu près 3 ans plus tôt. Puis, donc ça, c'est un fait, là. C'est un fait qui est documenté dans les études. Et aussi, il y a des études qui démontrent une augmentation quand même assez importante, là, chez les consommateurs. Là on parle par exemple, des adolescents qui consomment régulièrement, ce 1 sur 6 qui va tomber en dépendance, donc qui va consommer régulièrement, qui va consommer des quantités de plus en plus importantes.
Mais, ça, mais
c'est
docteur,
des choses qu'on voit dans la clinique tous les jours. Là. C'est
pas, il faut intervenir à ce niveau-là. Là.
Mais c'est ça que j'allais dire, parce que bon, la légalisation, c'est le 17 octobre. On le sait, ça va arriver, c'est là, on ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme prévention, docteur Kanamugir? Qu'est-ce qu'on devrait faire?
Moi, je pense que un enjeu très, très important qu'on a observé dans les États qui ont légalisé le cannabis, c'est la banalisation. La banalisation, surtout chez les jeunes, ça va être un enjeu important que nous devons vraiment adresser, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans la communauté, au niveau des professionnels de la santé, au niveau de votre côté aussi, au niveau des journalistes, vraiment de mettre ça au clair que le cannabis n'est pas inoffensif.
Ça fait 40 ans qu'on dit ce message-là et ça ne marche pas. Pourquoi ça fonctionnerait aujourd'hui? C'est viser l'échec de d'avoir cette stratégie-là. Je suis désolé d'être aussi dur, mais moi, en tant qu'historien et sociologue, j'ai pas le choix de vous le dire que ça va être un échec. C'est ça qu'on fait et ça marche.
Mais on devrait faire quoi, Hugo? Laisser ça aller puis pas en parler? Parce qu'on fait quand même de la prévention sur l'alcool. On fait de la prévention sur les drogues.
On leur dit que tu as le droit de consommer jusqu'à 24 consommations par semaine, excusez-moi. Mais pour le pot, faudrait pas, genre, pas un joint avant 18 ans. Imaginez un joint avant 18 ans, vous pourriez faire un petit cause, les jeunes. C'est ça qu'on leur dit. Et ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Et les jeunes se réfèrent à Cypress Hill pour savoir comment consommer. Se réfèrent à une sous-culture qui est d'accord, je suis d'accord avec le docteur, puis ici, la personne, le docteur qui est à côté de moi,
je suis entouré de docteur.
Je suis d'accord avec eux qu'il faut intervenir. Par contre, faut leur offrir une consommation responsable, des modèles de consommation responsable. Faut briser la stigmatisation pour que les personnes qui ont consommation responsable deviennent des personnes auxquelles on peut s'identifier. Présentement, les jeunes vont s'identifier à Dead Obese puis à Cypress Hill, qui vont valoriser le cannabis. Puis ça, c'est le problème. Mais ça va se perdurer, ça, parce qu'on va perdurer, on va continuer à stigmatiser les consommateurs puis les amateurs de cannabis.
Docteur Antoine Kanamugir, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre qui a été publié, Les 21 vérités cachées sur la marijuana. On s'arrête quelques instants, puis on va prendre les appels également du public, puis on va continuer la discussion, on doit aller à la pause. Continuez encore à nous appeler au 1-866-790-9850. Est-ce qu'on est prêt pour la légalisation du pot le 17 octobre? Hugo qui a les mains en l'air.
On est même prêt à plus.
Ben oui, Hugo Saint-Onge, porte-parole du Bloc-Pot. Et Dr John Sader, médecin de famille, spécialiste en traitement des dépendances. Et on va prendre plusieurs appels. Je vous dis tout de suite, les lignes sont pleines. Soyez patients. Alex est avec nous. Bonjour, Alex.
Oui, bonjour, ça va bien.
Ben, ça va, Alex. Est-ce que vous êtes prêt pour la légalisation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou vous êtes plutôt un consommateur de pot?
Mais moi, j'ai écouté votre docteur Antoine, puis je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que moi-même, j'ai vécu une expérience avec quelqu'un qui a fait ça depuis longtemps.
Ah oui?
Puis aujourd'hui, la personne n'est pas trop stable, elle fait de la dépression, puis tout ça. Ouais. Puis elle a fait ça toute sa vie.
Elle dit qu'elle a fait ça toute sa vie, donc elle a consommé du cannabis.
Ah, depuis l'âge jeune, 15. Elle a commencé à 15.
Ah oui?
Ah oui. Puis c'est ça, là, ça n'a pas été trop bien, là, mettons.
Donc, vous avez...
Ça affecte. Ouais. Les mots qui disent ça affecte pas, là, c'est pas vrai, ça. Ça a fait un effet, puis moi, je suis rien contre ça, hein. Moi, je suis ouvert à tout, mais ça, ça affecte, en tout cas.
Oui, bien, merci beaucoup,
Alex.
Je peux
le prouver.
Oui, ouais. Merci, Alex. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bon, là, moi, c'est ce que je comprends pas de ce débat, c'est que on parle du taux de THC, OK? Là, le gouvernement, il arrive avec quelque chose qu'il va pouvoir nous vendre, étant donné qu'il veut combattre le crime organisé. Là, il nous chante qu'on a un produit qui va être moins fort, donc ça va être bon pour vous, il n'y a pas de problème. Mais je dis, c'est normal là, qu'ils disent ça. Ils veulent vendre leurs produits à eux. Je veux dire, depuis le temps là, qu'il y a des potes là, sur le marché, quoi qu'ils n'ont pas fait ça auparavant, on voit toutes sortes d'études qui sortent tout d'un coup, tout le monde sort des livres. Mais ils étaient où ces gens-là là auparavant là? Ça fait longtemps là que le monde y fume. Parce qu'on est prêt pour la légalisation. C'est que le monde là qui en fume là, ça fait longtemps qu'ils sont déjà prêts là. C'est juste parce que là on veut rendre ça légal. Là on veut dire que là maintenant c'est rendu plus propre. Mm. Je m'excuse là, mais ça change absolument rien. Là.
Donc vous pensez qu'il y aura pas de gens qui vont commencer à fumer ou qu'il y aura pas une augmentation de consommateurs ou que quand on va se promener sur la rue, il y aura pas des gens qui vont fumer, ce qu'on voyait parfois
c'est
alors.
Déjà le cas.
Moi, mais pas tant que ça, ça dépend des endroits. Peut-être à Montréal là, mais la fille du Saguenay là, je peux te dire qu'elle en a
pourtant,
pas vu souvent.
J'en ai rencontré beaucoup de monde au Saguenay qui consomme.
Je suis pas sûr sur la rue Racine qu'il y en a tant que ça. Oui, Pierre.
Je pense pas que tout le monde va commencer à fumer parce que même présentement, là, les gens là, qui en veulent, là, ils peuvent en trouver là, facilement. Ouais. C'est pas un problème. Puis là, on me dit est-ce qu'on a peur que ça fait quelque chose là, sur les gens, tout ça. Moi, je dis toujours que la modération a bien meilleure base.
Donc, yeah.
Ça sera peut-être le nouveau slogan, Pierre. Merci beaucoup. La modération a bien meilleur buzz. Merci. On parlait de prévention tantôt, avant d'aller à la pause, Dr Sader. Évidemment que la question qu'on se pose, Hugo, tu disais, toi, qu'en fait, la répression, aller dans la peur, ça n'a pas fonctionné. Mais on est rendu à dire quoi, en fait, aux gens? Parce qu'évidemment, il va falloir en parler, puis il va y en avoir des campagnes de prévention.
Ça, c'est une des choses perversement intéressantes de la légalisation du cannabis. C'est-à-dire que depuis 100 ans, qu'est-ce qu'on a fait avec les substances? On a puni les gens, on a emprisonné les gens, on leur a donné des dossiers criminels, on leur a fait peur. Mais vous savez, le risque de trop apprécier quelque chose, il y a une grosse part qui est génétique. Fais toutes les peurs que tu veux, mais si une personne est mal dans sa peau et elle boit de l'alcool, puis ça corrige son état, on appelle ça de l'automédication. Oui. Mais il y a des gens qui vont automédicamenter la dépression, l'anxiété, etc.
Les phases maniaques.
Les troubles déficitaires de l'attention. La bipolarité, c'est intéressant, entre autres, parce que ça, ils réagissent un peu de façon contradictoire, les bipolaires avec du poids. Et comme pour bien des substances, par ailleurs. Et à ce moment-là, légaliser veut dire qu'on en parle plus, puis peut-être qu'on va se rendre au vrai discours. Et le vrai discours, c'est qu'il y a des gens, de la façon qu'ils sont faits, et qu'on peut indirectement pointer du doigt en voyant comment est-ce que grand-papa, grand-maman, papa, maman, mon oncle Jean ont réagi à l'alcool, à la cigarette, est-ce qu'ils ont des déficits d'attention, est-ce qu'ils ont de l'anxiété, est-ce qu'ils ont des dépressions. Il y a des gens que la consommation raisonnable de cannabis, c'est zéro. Touche pas ça parce que ton frère est schizophrène, puis ce serait peut-être pas une bonne idée pour toi. Et il y en a d'autres qui sont solides, deux pieds sur terre, solides. Puis, ils consomment de l'alcool, après deux verres, ils sont tannés. Ils n'ont pas le « wow » de l'alcool. Ils n'ont pas le « wow » de la cigarette. C'est pas la substance qui est addictive. C'est la substance X dans une personne Y qui crée cette relation.
Moi, je rajoute un troisième élément dans les trucs de dépendance. C'est la société. C'est-à-dire que c'est toujours une dynamique à trois. C'est comment on est dans la société, la substance ou le comportement, des fois, comme le vidéo poker, c'est plus un comportement que, il n'y a pas une consommation directe qu'on absorbe dans le corps.
Sauf qu'il y a des changements neurochimiques.
Oui.
Et maintenant, c'est classé comme une dépendance.
Oui, je comprends. Puis, ce que j'essaie d'établir ici, c'est qu'il y a la pharmacodépendance ou le comportement de dépendance qui sont plus élevés. Il y a des situations qui augmentent le risque de dépendance. Mais après, tu as l'individu et la société. C'est toujours une interaction entre ces trois-là.
Et présentement, une des choses qui me fait peur, on parle souvent du modèle, par exemple, portugais. Le Portugal...
Ils ont légalisé les
drogues.
Ils ont déjudiciarisé.
Les gens, quand ils ont... De toutes les substances.
Ouais.
Donc, si tu es attrapé avec la cocaïne, au lieu de te donner des charges criminelles, ils t'offrent thérapie, psychologue, médecin, désintox. Ils mettent l'emphase sur la solution. Mais quand le Portugal a fait ce move-là, ils étaient le pays en Europe où ça se consommait le moins de cannabis. Il y avait 13 % de consommateurs comparé aux
autres. Mes amis portugais
ne
seraient pas d'accord, mais bon.
Mais les statistiques, c'est les statistiques.
Oui.
Alors,
elles sont boiteuses.
Ici, ce qui est tannant, c'est moins pire, je pense, qu'aux États-Unis.
Ouais.
Mais on a une société où est-ce que notre économie, la force de notre société au niveau économique vient de la consommation en grande partie. L'acheteur de la voiture EXR plus, c'est sûr qu'il ne se rend pas à Québec plus vite que moi dans mon LE, mais il paye plus, il fait la consommation et le moteur. Et c'est devenu une... Je pense, ici, en tout cas, avec l'Église qui a été tassée pour toutes sortes de raisons, on a jeté peut-être le bébé avec l'eau du bain.
Ah,
et là,
c'est devenu
déséquilibré. Il y a énormément de gens qui cherchent le bien-être intérieur par leur bien-avoir. Je suis quelqu'un parce que j'ai une Rolex. Je suis quelqu'un parce que j'ai une Ferrari.
Mm-hmm.
Les chirurgiens plasticiens sont payés 10 fois plus pour réparer du superficiel que l'oncologue. Mais voyons donc, il guérit des cancers. Mmh. Mais notre société est rendue là. Et bon, le mauvais côté du cannabis, c'est que les gens sont entraînés. Ça commence avec les jouets chez McDo pour les enfants. Ils sont entraînés à... Tu te sens mal, on demande aujourd'hui qu'est-ce que t'as.
Ouais.
On demande pas « comment es-tu ?» On demande « qu'est-ce que t'as ?» Alors, « qu'est-ce que j'ai ?» Ah, ça me prend quelque chose. Alors, les gens sont élevés dans une philosophie de « avoir ». Et avoir un trip, avoir un feeling. Tu sais, dans la vie, si je m'assois sur une punaise, la solution, c'est pas de prendre des Tylenol pour empêcher mon mal, puis de corriger le mal. La solution, c'est de se lever, d'identifier qu'est-ce qui fait mal, de l'enlever, puis de me rasseoir. Le consommateur de n'importe quoi, et là, on peut dire jeux vidéo, on peut dire vitesse en auto, on peut dire pornographie, on peut dire coureur de jupons, on peut dire cannabis, cocaïne, alcool... Eux autres, ce qu'ils ont tendance à développer, et la société encourage ça aussi par le système économique, ben, on va aller chercher quelque chose pour corriger l'émotion. Et ça amène que les gens n'évoluent pas beaucoup.
Et ils restent
les fumeurs de cigarettes se divorcent 50 % plus que les non-fumeurs. Et quand on leur pose les questions, ils vont vous dire « Écoute, ça fait 20 ans, Dr Sader, que ma femme me tombe ses nerfs, puis au lieu de lui parler, lieu de discuter, je sors dehors, je fume deux cigarettes, je calme mes nerfs, mais j'en parle pas. » Et à quelque part, peut-être que la légalisation du cannabis va nous emmener à avoir un vrai discours de fond sur qu'est-ce qu'il faudrait changer. Parce que juste pénaliser des gens qui sont nés avec une tendance biologique, génétique de trop aimer quelque chose,
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait à tous ceux qui n'ont pas cette tendance-là, qui sont pénalisés, justement,
avoir
la liberté, mais ça va faire partie l'égalité.
Ça va faire partie, c'est pas noir et blanc. Il va falloir nuancer, puis que les gens qui sont solides, qui réagissent pas comme ça. Moi, j'ai pas peur de la cigarette. J'ai une copine qui fumait, elle fumait.
Et vous avez jamais
et j'ai déjà essayé la cigarette. J'ai pas de plaisir avec la cigarette. Ça me réveille, mais j'ai pas de plaisir pour en fumer un autre. Fait que risque dépendance cigarette, pour moi, zéro. J'aime bien ça, le chocolat, par exemple.
Fait que, à quelque part, c'est envers ça qu'il faut que tu comprennes. Je comprends très bien.
Tout ça, c'est une opportunité. Ce qui m'achale un peu, c'est est-ce qu'on met la charrue devant les bœufs? Mais des fois, dans une société, c'est comme ça que ça arrive, c'est plate. Mais peut-être que les sociétés évoluent comme les êtres humains. Des fois, les êtres humains, pour mieux se trouver, il faut qu'ils se perdent.
Mm-hmm. Moi, je suis d'accord avec ça, là, sincèrement. Le Bloc Pot, on a toujours défendu cette façon de penser. C'est on questionne le cannabis, mais on questionne toute la consommation de toutes les substances licites et illicites qui entraînent des comportements de dépendance ou qui va dévier les gens. On questionne la question de consommation. Puis là, ce qui nous tracasse actuellement, c'est que c'est un deux poids, deux mesures. Les gens peuvent brasser de la bière puis du vin chez eux sans problème, mais avoir des plans chez eux, non.
Parce que la loi, c'est ça qu'il faut dire aussi. Si on rappelle la loi, c'est tu peux pas commencer à te faire une usine chez vous dans ton sous-sol.
Ah, non, mais ça, même si, disons, demain matin, là, c'est plus dans le code criminel, tu fais une pièce dans ta maison pour faire aussi du cannabis au complet, ça va à l'encontre de ton bail. Ton bail ne dit pas que tu as le droit de produire des tomates dans une pièce. Là.
Puis on ne pourra pas plus conduire en fumant non plus.
Mais ton propriétaire, si tu fais une place de tomates, là, il va te dire que tu n'as pas le droit de faire
les
ça.
Les droits des uns s'arrêtent quand les droits des autres commencent.
Ouais. Déjà là, il faudrait qu'on pense qu'on a des droits, nous, en tant qu'amateurs. Présentement, ce n'est pas le cas.
On va continuer à en parler après la pause. 10h47, on s'arrête quelques instants. On se retrouve tout de suite après. Et on continue de prendre vos appels sur la légalisation du pot le 17 octobre prochain. André, bonjour.
Bonjour.
Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
Oui, alors voici. Je suis un petit peu fâchée des commentaires du monsieur qui parle pro-pot, là. J'aurais aimé ça le voir chez moi quand mon fils avait 15 ans, aller jusqu'à l'âge de 24 ans. Ça devenait un mode de vie de fumer avec ses amis et tout et tout. On a fait un gros contrôle là-dessus, on a fait nos efforts, on l'a amené chez le psychologue. Les dépendances familiales, il n'y en avait pas, désolé pour le sociologue. C'est un jeune qui se tenait avec une petite gang, puis ça dérapait un peu, puis ça a duré 10 ans. Alors qu'on me dise que c'est pour endormir le peuple, on me dit pas ça, mais c'est ce que je crois. OK? Et puis, demander à un enfant de 16, 17, 18 ans d'être raisonnable, un jeune adulte, c'est pas toujours efficace parce qu'on sait qu'il y a des docteurs qui fument la cigarette, hein? Alors, c'est pas une question de volonté, c'est une question de raisonnabilité. Ils sont pas raisonnables. Ils le savent, ils le font quand même. OK? Et puis là-dessus, j'oserais ajouter que tant qu'à pousser pour le pot, pousser donc pour que les jeunes aillent faire du sport à la place, hein? Déplacer le problème à un autre endroit, créer une addiction pour le sport, ça se ferait pas, ça? C'est pas dans la suite logique des choses? Mm-hmm. T'sais, j'aimerais ça qu'il me parle, le monsieur du pot, là-dessus, qu'il me dise les raisons qui fait que c'est bon pour les jeunes, que c'est pas grave, qu'on a le contrôle, qu'on peut fumer un joint de temps en temps. C'est pas le même que ça se passe dans la réalité. J'aurais bien aimé le voir, lui, quand mon gars est en crise.
Hugo Saint-Ange.
Mais ça m'aurait énormément fait plaisir d'aller chez vous à ce moment-là puis d'essayer de discuter avec votre fils. J'aurais sûrement eu plus d'effets que la plupart des autres intervenants parce que j'aurais pas jugé son comportement. Écoutez, madame, je comprends votre anecdote. Je comprends que ça n'a pas été facile. Dans les données, dans ce qu'on sait, c'est que c'est des choses qui arrivent. Puis vous l'avez toutes bien nommé. Le groupe d'amis, le peer pressure, la pression des pairs, la sous-culture, c'est tout ce que vous avez dit, vous avez exactement justifié mon discours. Les jeunes ont besoin d'une culture de consommation responsable. La grande majorité des gens qui consomment le cannabis ont une consommation responsable, ils ont des vies normales, ont des diplômes post-secondaires. Donc, qu'on vient de me dire que ça rend les gens inertes, incapables, pas allumés, ben, vous viendrez me voir dans ma vie, voir si je suis pas allumé. Vous viendrez voir tous les gens que je connais.
Mais je peux comprendre une mère de famille, mais André, 15 ans, qui le jeune fume dans son sous-sol
après,
avec
je
les...
comprends sa détresse,
après ça, on va
là.
Se dire, ben, c'est légal.
On ne parle pas de consommation raisonnable à 15 ans.
Et voilà.
Hein? C'est bon, ça, premièrement, il ne devrait pas consommer. Mais
Ben là, il ne faudrait pas qu'on consomme de bien des choses aussi à 15 ans. Là.
C'est ça. Mais, non, ben,
ben oui, son, mais même
c'est l'alcool, là, clairement. Mais bon, c'est normal qu'ils fassent des expériences aussi. C'est comme moi, j'ai adoré faire des expériences à 15
ans. Mais les expériences ne sont pas... Et une des choses que j'ai appris avec les années, c'est que notre interprétation des faits est souvent teintée par notre propre biologie à nous autres, personnellement. Alors, tu sais, quelqu'un qui est un bon vivant peut avoir une philosophie un petit peu plus basée sur le plaisir, parce que et c'est si il se connaît mieux. Mais il y a des gens que le plaisir, ils ne savent pas ce que c'est. Mm-hmm. Et ça fait des ascètes. Tu sais, ça fait des gens qui sont... Alors, il faut faire attention à ça. Ceci étant dit, bon, les jeunes, on ne va pas, il n'y a personne qui veut que les jeunes fument. Raisonnable, écoute, ton cerveau est en développement. Moi, quand j'avais 15 ans, l'alcool ne fonctionnait pas pour moi, la cigarette ne fonctionnait pas. Moi, ce qui a fonctionné, moi, je suis devenu accro au tennis. J'ai commencé à jouer de la guitare à 16 ans. J'écrivais des chansons depuis que j'ai 10 ans. Fait que j'en faisais des affaires. La différence, c'est que quand on fait... Oui, ça donne un trip. Gagner un match de tennis là, au Jeux du Québec, là, c'est le fun. Là. C'est le fun. Sauf, il y a du mérite.
Ouais.
Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 40 ans après ma carrière de tennis, j'ai encore le sourire quand je pense à certains coups que j'ai faits. Donc, ma dopamine, elle monte juste par la mémoire de ce que j'ai fait il y a 40 ans.
Pas sur la brosse que vous avez faite à 15-16 ans.
Et l'affaire, c'est que tu as le mérite. Et le mérite, donc, c'est tout le système de développement de valeurs. J'ai gagné ce point-là parce que j'ai été courageux, j'ai été fort, j'ai couru vite, j'ai pas lâché.
Une vie saine dans un corps sain.
Exact.
Dire, on
tandis que
ça,
la
ça,
consommation vide l'individu de son être. Ton verre, pour être rempli de café, il faut qu'il commence à paraître vide.
On va parler avec Olivier, qui est un consommateur. Bonjour.
Bonjour. Moi, premièrement, pour vous dire, je suis consommateur. J'ai consommé depuis l'âge d'environ 14-15 ans au secondaire. Est-ce que je suis là?
Oui, tout à fait. Je vous écoute, Olivier.
Oui.
Allez-y.
Excusez-moi. Oui. Donc, mais je me suis rendu compte que s'il y a quelque chose qui a freiné ma réussite, qui a freiné mon développement, c'était pertinemment ça. Par contre, je suis bachelier aujourd'hui, j'ai réussi dans la vie, mais je trouve que votre interlocuteur qui est pro-cannabis, il est en train un peu de dédramatiser la réalité derrière ça, parce que moi, autour de moi, toutes les gens que j'ai pu rencontrer, ben une fois qu'ils consommaient puis qu'ils étaient rendus quotidien, mais leur quotidien était juste rempli de ça. Une activité ne pouvait pas se dérouler sans qu'il y ait ça. Puis c'est là que je pense que ça devient un peu dangereux. Puis en plus de dédramatiser tout ça, ça va faire en sorte que les jeunes vont se diriger vers ça, puis ils vont le relier comme à l'alcool. Mais on sait pertinemment que l'alcool, oui, ça a des effets vraiment importants qui nous rend un peu pas fonctionnels. Le cannabis, un peu moins, mais c'est vraiment à long terme que tout l'impact va avoir, puis ça va faire en sorte que la dépression va être présente, que les jeunes vont perdre leur motivation. Puis je trouve que l'interlocuteur, il est tout en train d'embellir ça, puis de rendre ça avec des lunettes roses. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans la vraie réalité, puis qu'il prend juste sa situation à lui, puis qu'il transfère ça sur toute la population, puis tout le monde devrait être comme lui face à ça, ce qui n'est pas la vraie réalité.
Merci, Olivier, de votre appel. L'interlocuteur en question, c'est Hugo Saint-Ange.
Ouais. Ben, écoutez, je ne suis pas surpris de cette réaction-là, parce qu'on vit dans une société prohibitionniste où la prohibition a le beau rôle, a le supposément pour le bien de la société. Mais ce que moi j'ai étudié, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, me démontre que les anecdotes que les gens me présentent restent des anecdotes, parce que moi, j'ai plein d'autres anecdotes.
Mais des anecdotes quand même importantes. Puis je pense que dans la prochaine année, on va en
parler. Ce que les gens vivent, c'est pas important. Ouais. Mais moi, j'ai des anecdotes qui sont autres. J'ai des amis médecins qui consomment depuis l'adolescence.
Mais chose certaine, on va continuer à en
parler.
Mais
ce qui se ressemble, ça semble.
Ouais,
alors, c'est
aussi
là où est-ce qu'il faut tomber sur la science, au lieu de juste mon expérience personnelle.
Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on va continuer à en parler parce que le 17 octobre, ça s'en vient puis c'est pas terminé. Merci, Dr. John Sutter et aussi Hugo Saint-Ange, porte-parole du Bloc Pot. On se retrouve après les informations de Cogeco Nouvelles. À tout de suite.
Merci.